vendredi 27 avril 2018 et voici Au quotidien des quotidiens, votre revue de presse. J'aurais bien évidemment qu'Hélène Denis est en train de vous parler. Hélène n'est pas là pour les 90 prochaines minutes. François Brodeur sera avec vos micros, donc, et ce sera aussi le cas pour lundi. Mais avant de me donner à moi-même la parole, je la donne à Mathieu Tessier qui va nous parler de ce qui s'est passé à travers l'histoire un 27 avril.
En effet, 27 avril est une date comme une autre, mais il s'en est quand même passé aujourd'hui. Je commence par 1521, le navigateur portugais Ferdinand Magellan est tué par des indigènes dans l'île de Mactan aux Philippines.
Oui, d'ailleurs, il est inexact de dire que Magellan a bouclé le premier tour du monde. Son expédition l'a fait, mais lui, malheureusement.
Exact. 1813, les troupes américaines incendient le Parlement à Toronto. 27 avril 1848, le ministre français Victor Schœlcher fait abolir l'esclavage dans les colonies. 1932, aux États-Unis, l'administration Roosevelt distribue les premiers chèques pour la sécurité sociale. Nous avons en 1942 référendum sur la circonscription au Canada. Le pays vote oui à 63%. Le Québec vote non à 71%. 1947, le Norvégien Thor Heyerdahl et 5 équipiers quittent Callao au Pérou sur un radeau de balsa baptisé Kon-Tiki pour démontrer l'origine du peuplement de la Polynésie.
Oui, en fait, il s'agissait de prouver qu'on pouvait rallier en radeau les îles du Pacifique et ils y sont parvenus, ben effectivement. Oui.
En 1967, c'était l'ouverture de l'exposition universelle de Montréal, Expo 67, donc débute un 27 avril 1967. 1977, le gouvernement Lévesque dépose à l'Assemblée nationale le projet de loi 1, la charte de la langue française, qui sera adoptée le 26 août prochain. Suivant, ça va bien dans les dates aujourd'hui, on a eu de la misère, toute la matinée. Donc, je recommence. La charte... oui, c'est ça. Je vais recommencer au complet, décidément. 1977, le gouvernement Lévesque...
Alors, 2 avril, ici.
Non, c'est pas le 1er avril. Le gouvernement Lévesque dépose à l'Assemblée nationale le projet de loi 1, la charte de la langue française, qui sera adoptée le 26 août suivant, sous le numéro 101. Bon. 1987, accusé de crimes nazis en Yougoslavie, le président de l'Autriche, Kurt Waldheim, ancien secrétaire général de l'ONU, est déclaré indésirable aux États-Unis. En 1997, inauguration à Hong Kong du plus long pont suspendu routier et ferroviaire desservant l'aéroport. En 2006, toujours un 27 avril, Ottawa règle le conflit du bois d'œuvre avec Washington qui devra rembourser 80% des droits abusifs prélevés. 2007, le publicitaire Jean Lafleur plaide coupable à 28 chefs d'accusation de fraude. Dans la foulée du scandale fédéral des commandites. En 2008, la police autrichienne retrouve une femme de 42 ans séquestrée et malheureusement violée par son père pendant plus de 24 ans dans une cave aménagée. Cette union incestueuse a donné naissance à 7 enfants. Et en 2011, 27 avril toujours, de violents orages accompagnés de tornades traversent le sud des États-Unis, faisant au moins 340 morts, dont 249 en Alabama. Et pour ce qui est des naissances du 27 avril, Samuel Morse, inventeur du télégraphe électrique, né en 1791, le poète anglais Cecil D. Lewis, qui est né en 1904, et le pianiste Louis Lortie, qui est né à Montréal en 1959. Et pour ce qui est des décès du 27 avril, dans l'histoire, né en 1927, le violoncelliste, chef d'orchestre russe Mislav Rostropovitch, décède en 2007. Le créateur du journal Spirou, Robert Welter, qui était né, lui, en 1909, nous a quittés en 1991. Yogi Gagarin nous a quittés en 1968.
Premier homme dans l'espace.
Voilà, qui était né en 1934. Et Ferdinand Magellan, qui était né, lui, en 1480, comme je le disais, est décédé en 1521. C'est tout.
Non, ben, il y en a d'autres qui sont décédés le 27 avril. On ne les nommera pas tous, si vous nous le permettez.
Il y en a d'autres qui sont nés aussi le 27 avril, effectivement. Alors, ben voilà. Bon
vendredi. Merci, Mathieu. Sans plus attendre, on aborde les pages de la presse et plus particulièrement un texte de Denis Le Sarre qui se penche sur le départ de Martin Coiteux. Martin Coiteux quittera la vie politique. Vedette économique du gouvernement Couillard, Martin Coiteux veut quitter la politique. Il ne sollicitera pas de nouveaux mandats, ont indiqué plusieurs sources fiables à la presse. Joint hier, le principal intéressé s'est limité à dire « En temps et lieu, j'aurai l'occasion d'éclaircir tout cela ». Député de Néligan depuis avril 2014, Martin Coiteux avait été l'un des derniers à se décider à faire le saut en politique quelques jours seulement avant le début de la campagne électorale. Il faut rappeler que la Charte des valeurs de Bernard Drainville proposée par le gouvernement Marois avait été le déclencheur qui avait convaincu ce professeur de HEC Montréal de faire le saut en politique. Des sources proches du ministre des Affaires municipales et de la Sécurité publique ont précisé « le suspense ne durera pas très longtemps ». La carrière politique de Martin Coiteux sera toujours liée à son passage au Conseil du Trésor, une période où le gouvernement libéral a comprimé de façon draconienne la croissance des dépenses pour arriver à l'équilibre budgétaire. M. Coiteux était aussi au centre des négociations avec le secteur public, des discussions ardues, mais qui se sont terminées sans conflit. À la sécurité publique et aux affaires municipales, il a été au cœur de l'intervention de Québec pour les propriétaires sinistrés par les inondations. Pour les municipalités, deux avancées majeures. Il a fait adopter les projets de loi consacrant le statut de métropole à la Ville de Montréal et fait législativement de Québec la capitale nationale. Avec un succès divers, il s'était attaqué au port de l'uniforme par les policiers et avait fait adopter un projet de loi promis par Lise Thériault. Son intention d'encadrer les chiens dangereux est toujours en suspens à l'Assemblée nationale. Il faisait partie, avec le ministre des Finances Carlos Leitao et le regretté Jacques Daou, développement économique puis transport, du trio économique recruté par Philippe Couillard pour la campagne de 2014. Monsieur Coiteux, fréquent chroniqueur radiophonique, s'était fait remarquer par un agenda plutôt proche de la coalition Avenir Québec. En coulisses, on explique que la conjointe de Monsieur Coiteux était loin d'être enthousiaste à l'idée qu'il fasse un nouveau mandat. Son élection comme candidat libéral de Néligan ne faisait aucun doute. En outre, a expliqué un membre du gouvernement, il est clair que financièrement, le sort réservé aux élus ne s'améliorera pas dans les prochaines années. Ottawa a déjà annoncé que des allocations deviendront imposables et Québec solidaire s'est opposé à ce qu'on hausse le traitement pour compenser. Un autre élément, les changements aux règles, fait qu'un élu ne peut bénéficier de son allocation de transition, une année de salaire, s'il part au milieu d'un mandat. Le départ de Martin Coiteux va s'ajouter à d'autres plus prévisibles. Déjà en novembre 2017, la presse indiquait que le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, annoncerait son départ à la fin de la session parlementaire. Un autre départ est pratiquement acquis, même si le principal intéressé paraît indécis. Geoffrey Kelly tirerait sa révérence. Cet ancien employé politique de Claude Ryan avait été élu une première fois en 1994. Il est depuis 27 ans dans l'orbite de l'Assemblée nationale et, événement important, sa conjointe prend sa retraite cette année. Le député de Jacques Cartier a toujours été associé aux affaires et autochtones. Laurent Le Sarre, ancien maire de Thetford, devenu titulaire de l'agriculture, est aussi en réflexion. La date d'une investiture éventuelle est toujours en suspens. Dans son cas, la campagne dans une circonscription au cœur du Québec et la lutte entre la coalition Avenir Québec paraît peser lourd dans la décision. Un autre départ avait surpris la colline parlementaire. Jean-Marc Fournier, un vétéran, a annoncé en février dernier qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat. Il restera toutefois comme conseiller politique de Philippe Couillard durant la campagne électorale. On spécule encore sur le départ de Rita DeSantis dans Bourassa-Sauvé. L'organisation du Parti libéral retenait sa décision quant à sa candidature, même si la députée la réclamait depuis des semaines. Madame DeSantis obtiendra bientôt la date de son investiture. Un peu dans le même cas, Kathleen Veil a longtemps attendu la date de sa convention dans Notre-Dame-de-Grâce. On lui a donné récemment le feu vert pour le 10 juin. Phénomène assez rare dans l'actualité, je dirais qu'il y a plus de bonnes nouvelles cette semaine que de mauvaises, et on va en donner une tout de suite. Don de 15 millions de dollars à l'Université McGill, c'est le titre de Mathieu Perrault. Une fondation privée fait un don de 15 millions de dollars sur 5 ans pour créer un pôle de recherche en immunologie et en infectiologie à l'Université McGill. Le projet est de créer un réseau de 250 chercheurs dans les différents campus et hôpitaux universitaires de McGill. Avec les étudiants et les techniciens, on parle de 4 ou 5 fois plus de gens, explique le Dr Don Shepherd, directeur des maladies infectieuses au Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM. Le nouveau groupe va amplifier un réseau existant de 45 chercheurs en infectiologie qui se rencontrent chaque semaine en personne ou par téléconférence. Le nouveau réseau va financer une dizaine de projets innovateurs dont l'objectif sera d'obtenir en 18 mois des résultats assez intéressants pour générer du financement d'agences de recherche fédérales et internationales, dit le Dr Shepherd. Chaque projet aura un budget de quelques centaines de milliers de dollars. Le deuxième objectif du nouveau réseau est de fournir du confinement pour des projets de recherche déjà acceptés par des organismes du cofinancement, pour des projets de recherche déjà acceptés par des organismes subventionnaires. La nouvelle mode est d'accepter les projets, mais en exigeant 10 à 20 de cofinancement, dit le Dr Shepherd. C'est une bonne idée, mais c'est une grande barrière parce qu'il faut généralement trouver du cofinancement privé. D'excellentes idées meurent sur la table de travail. L'objectif est un cofinancement totalisant 1 million par année, ce qui permettra de financer de 5 à 10 millions en projets de recherche. Les chercheurs veulent suivre quelques dizaines de milliers de patients recevant des thérapies biologiques au CUSUM et au CHUM. Il s'agit de manipulations du système immunitaire pour traiter des maladies, l'arthrite, le cancer, la sclérose en plaques, même des maladies infectieuses. Des centaines de thérapies biologiques ont été approuvées ou sont en essai clinique. Mais il y a des effets secondaires inattendus, une augmentation des infections et des inflammations, et ça marche moins bien pour certains groupes, notamment les femmes et les Asiatiques. On veut comprendre pourquoi et améliorer les thérapies biologiques. Enfin, si ça vous intéresse, sachez que les 15 millions de dollars proviennent de la Fondation Dogon, créée en 2011 par Elspeth McConnell, morte l'été dernier sans avoir eu d'enfant. Elle était la veuve d'un ancien propriétaire du Montreal Star, John Griffith McConnell, dont le père était lui-même, dans les années 20 et 30, l'un des plus riches hommes d'affaires du Canada. Nouvelle environnementale qui nous vient d'AFP, de Martine Laouchesse pour être plus précis. L'Union européenne bannit les néonicotinoïdes pour sauver les abeilles. L'Union européenne a décidé vendredi d'élargir l'interdiction de 3 néonicotinoïdes, des pesticides jugés dangereux, ce sont ceux qu'on trouve sur les semences enrobées, jugés dangereux pour les abeilles, à toutes les cultures en plein champ, au nom de la défense de la biodiversité et de l'environnement. Bernie l'abeille, insecte gonflable géant déployé par le collectif Avaz vendredi devant les bâtiments de l'Union européenne à Bruxelles, peut se réjouir. Défendu par la Commission européenne, l'interdiction a été votée par une majorité qualifiée d'États membres lors d'un comité technique à huit lots. 16 d'entre eux, le minimum requis, ont donné leur feu vert selon des sources concordantes. Parmi eux, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, mais aussi les Pays-Bas ou le Luxembourg, dont le ministre de l'Environnement, Carole Dietschburg, a fait part de sa satisfaction. C'est une belle journée pour notre combat en cours pour plus de biodiversité et contre les insecticides nocifs, s'est-elle félicitée sur Twitter. L'exécutif européen s'est également réjoui du soutien des États membres à sa proposition. Pause musicale et on revient avec le devoir.
Notre amour existe quand il est loin.
Manville et sa chanson Possible, Impossible.
Allez, on commence tout de suite avec un texte d'Édouard Guillard qui nous éclaire sur une grande question qu'on se pose tous depuis quelques jours. Le troisième enfant du prince William et de Kate Middleton se prénomme Louis. Après 4 jours d'attente et d'intense spéculation du côté des parieurs, le prince William et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, ont annoncé vendredi avoir prénommé leur troisième enfant, né lundi, Louis-Arthur Charles. Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis d'annoncer qu'ils ont prénommé leur fils Louis-Arthur Charles, a indiqué le palais de Kensington, leur résidence officielle, dans un court communiqué. Et si vous vous demandez comment on fait pour parler à ce bébé-là, au lieu de lui dire « Gilly, Gilly, Gilly », eh bien vous dites « Altesse royale, prince Louis de Cambridge ». C'est tellement mignon. Par ailleurs, on peut s'inquiéter de l'avenir de cet enfant puisqu'il n'est que 5e dans l'ordre de succession au trône, donc on peut se demander s'il aura un travail quand il sera grand. Allez, l'autre grande bonne nouvelle de la journée, ça a presque l'air d'un vœu pieux, le titre de Sungi Wang de l'agence France Presse. Il n'y aura plus de guerre sur la péninsule, promettent les dirigeants coréens. Les dirigeants des deux Corées se sont engagés vendredi à œuvrer en faveur de la dénucléarisation, en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule lors d'un sommet historique dans la zone démilitarisée. Après une poignée de main très symbolique avec le président sud-coréen Moon Jae-in à la frontière, le chef nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que la Corée était au seuil d'une nouvelle histoire. Premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre, de 1950 à 1953, il s'est dit submergé par l'émotion après avoir franchi la bordure de béton de quelques centimètres de haut qui figure la démarcation dans le village de Panmunjom. Les deux dirigeants déclarent solennellement devant les 80 millions de Coréens et le monde entier qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne et qu'en conséquence une nouvelle ère de paix a commencé, dit la déclaration de Panmunjom, publiée à l'issue de la rencontre. La Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire, ajoute-t-elle. Après avoir signé ce texte, messieurs Kim et Moon se sont donné l'accolade au terme d'une journée de chaleureux témoignages d'amitié entre deux hommes qui ont partagé en soirée un banquet en compagnie de leurs épouses. Les deux voisins ont indiqué qu'ils chercheraient à rencontrer les États-Unis, peut-être aussi la Chine, en vue de déclarer la fin de la guerre et établir un régime de paix permanent et solide sur la péninsule. Faute de traité, les deux voisins sont toujours aujourd'hui techniquement en guerre. Au Bloc québécois, ça ne se calme pas. Marie Vastel signe un texte intitulé « Bloc québécois, Beaulieu veut précipiter le départ de Ouellet ». Le Conseil général du Bloc québécois sera mouvementé dimanche. Un camp rival à la chef Martine Ouellet compte prendre d'assaut la rencontre afin de faire devancer le vote de confiance à son endroit, a appris Le Devoir. Le camp des dissidents rassemble la majorité des circonscriptions. Et l'un de ses membres est nul autre que Mario Beaulieu qui défendra le putsch au micro. Ça va brasser de tous bords, tous côtés, prévient une source bloquiste à quelques jours de la rencontre prévue à Drummondville. Dès l'ouverture de la séance, les représentants d'une 40aine de circonscriptions réclameront que soit modifié l'ordre du jour. Plutôt que de causer comme prévu de la proposition de plateforme électorale de Martine Ouellet ou de son idée de référendum à deux volets, le camp des dissidents s'organisera pour que la journée soit consacrée d'abord et avant tout à la crise qui secoue le parti depuis 2 mois. L'objectif, c'est que la crise soit derrière nous avant la fin du mois de mai, explique un des présidents de circonscription au Devoir. Les contestataires du leadership de Martine Ouellet veulent abandonner l'idée de référendum de la chef qui veut sonder les membres sur le mandat du Bloc début juin et obtenir un vote de confiance à son endroit. Le camp des dissidents veut uniquement conserver le vote de confiance et que celui-ci soit devancé de 2 semaines pour se tenir le 15 mai. Mario Beaulieu participe à leur campagne, ont confié des sources au Devoir. Les présidents de circonscription ont convenu de leur plan de match lors d'une conférence téléphonique mercredi soir. M. Beaulieu, qui est député et président du parti, était de cet appel, et l'ancien chef a lui-même fait des appels pour convaincre des présidents de circonscription qu'il valait mieux que Martine Ouellet quitte son poste. L'objectif, essayer de faire comprendre à Martine que, pour le bien du parti, ce serait mieux qu'elle parte immédiatement, explique un second président de circonscription qui participera à la fronde dimanche. Les membres ont décidé de se réapproprier leur parti. Mario fait une cavale pour aider le plus possible les membres à atteindre cet objectif, confie une quatrième source au Devoir. M. Beaulieu avait retiré son appui à Martine Ouellet en privé à la fin mars, deux semaines après le départ fracassant de la majorité du caucus bloquiste. Il a toujours refusé depuis de se prononcer publiquement sur le sort de la chef qu'il avait lui-même recrutée l'an dernier. Mais Mario Beaulieu prévoirait maintenant de prendre la parole pour défendre lui-même la demande des dissidents au micro dimanche, selon nos informations. Agression sexuelle. Québec pressé de mieux protéger les enfants. Un texte d'Émilie Martinac, Mélanie Lemay et Amélie Pineda. Les agressions sexuelles dans les écoles primaires et secondaires sont loin d'être un phénomène marginal, plaide une coalition d'organismes qui exhorte Québec à adopter une loi pour s'y attaquer. Il y a une grande banalisation qui existe dans les écoles. Les questions de harcèlement, de sexisme ordinaire, d'attouchement, surtout du côté des écoles primaires, ne sont pas prises au sérieux, a déploré Lilia Goldfarb, directrice des programmes du Y des femmes. Jeudi, une coalition d'organismes a pressé le gouvernement du Québec d'agir, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui oblige les établissements scolaires, primaires et secondaires à se doter d'un protocole pour contrer les violences sexuelles. Du côté financier, du soutien financier, est aussi demandé puisqu'il est nécessaire non seulement de former les professeurs, mais aussi de compter sur des spécialistes. Cette coalition a été créée après qu'un groupe d'adolescentes âgées de 12 à 17 ans ait dénoncé les agressions subies à l'école. Le Devoir rapportait le 30 mars que certaines ont même livré des témoignages troublants lors d'une séance des commissaires de la Commission scolaire de Montréal. D'ailleurs, la CSDM a adopté mercredi une résolution demandant au Québec d'étendre sa stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles au réseau des commissions scolaires du Québec. Si ce sont des adultes qui font cette sortie, c'est parce que les intervenantes veulent éviter que ces jeunes subissent la pression d'une dénonciation publique. Actuellement, a rappelé le groupe, les cas liés à des violences sexuelles sont, lorsque dénoncés, traités selon le protocole contre l'intimidation et la violence. Il faut faire la différence. De l'intimidation, ce n'est pas la même chose qu'un attouchement, que du sexting ou qu'un viol, a insisté Mme Martinac. Ce n'est pas facile de dénoncer des cas d'agression sexuelle et ça l'est encore moins lorsqu'on est adolescent. Les organismes estiment aussi que la loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel adoptée récemment par Québec ne doit pas se limiter aux établissements d'enseignement supérieur. Par ailleurs, dans les écoles, il semblerait que les incidents entre groupes ethniques soient en hausse, c'est d'ailleurs le titre de Marie-Michel Sioui. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a convenu jeudi que le climat actuel peut susciter davantage de conflits entre les groupes ethniques dans les écoles, comme l'a constaté une équipe de chercheurs de l'Université Laval qui s'est intéressée à la violence dans les établissements scolaires du Québec. « Je pense que c'est clair, vous n'avez qu'à regarder l'actualité », a-t-il reconnu. Cela dit, nos enfants sont les mieux placés pour atténuer ces différences, a-t-il ajouté. Les enfants n'ont pas ce type d'idée préconçue, sauf si quelqu'un les leur met dans la tête quand ils sont très jeunes. Une autre pause et on aborde le Journal de Montréal.
et que j'aurai compris pourquoi j'ai si froid lorsque la nuit tombe. Quand j'aurai visité la mort et vaincu les monstres passés, réparé toutes ces erreurs commises sans vouloir blesser, alors je chercherai encore, encore, encore. Quand j'aurai goûté les saisons, appris les langues ancestrales, dormi sous presque tous les ponts et compté 100 milliards d'étoiles, quand les automnes auront chassé les amertumes de l'été, quand les hivers seront moins longs et les printemps prématurés, alors je chercherai encore, alors je chercherai encore, encore. Je chercherai pour débusquer ce qui accroche, ce qui m'énerve, ce qui écorche, tout ce qui cloche. Insatisfait d'être trop bien, d'avoir enfin le ventre plein, l'esprit libre, enfin. Combattu, Poséidon, bravé tempêtes et tornades, seul armé de quelques hameçons. Quand j'aurai redressé les torts de ma vie de vieux banlieusard, quand j'aurai bu jusqu'à plus soif et démystifié les eaux noires, alors je chercherai encore, alors je chercherai encore, encore. Je chercherai pour débusquer ce qui accroche, ce qui m'énerve, ce qui égorge, tout ce qui cloche. Insatisfait d'être trop bien, d'avoir enfin le ventre plein, l'esprit libre, enfin. Débusquer ce qui accroche, ce qui m'énerve, ce qui écorche, tout ce qui cloche. Insatisfait d'être trop bien, d'avoir enfin le ventre plein, l'esprit libre, enfin.
Phil Boucher et sa chanson « Je chercherai ».
Plusieurs choses intéressantes aujourd'hui dans les pages du Journal de Montréal. Je commence par un texte de Vincent Larrain sur Facebook qui m'a un peu intrigué. « Facebook met de la pression sur les jeunes ». Les réseaux sociaux mettent une pression énorme sur les adolescents en manque d'estime de soi, selon la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux. Quelqu'un qui ne peut prendre de recul par rapport à ça va certainement se dire que sa vie est de la chenoute, déplore l'experte. La recherche d'estime de soi peut pousser à commettre des gestes extrêmes selon la situation personnelle de l'adolescent, ajoute-t-elle. L'encadrement familial, la maturité ou encore la consommation de drogue sont autant de facteurs à prendre en compte. Si le jeune commet quelque chose de très sensationnaliste mais pas très adapté comme geste pour recevoir des « likes », c'est qu'il sent qu'il ne peut pas recevoir cette reconnaissance autrement, analyse Christine Groux en précisant qu'elle ne commentait pas le cas de Brenda Pelletier-Bélanger. Un autre facteur aggravant dans le cas des jeunes est le fait qu'une partie de leur cerveau, les lobes frontaux, ne s'est pas encore complètement développée, selon Mme Groux. C'est une partie qui est responsable du jugement et de la capacité à anticiper les conséquences de nos actions, précise-t-elle. Mais les ados sont susceptibles d'agir sans en mesurer les conséquences, rappelle Mme Groux en mettant en garde contre les explications simplistes à propos des réseaux sociaux. Depuis la nuit des temps que les jeunes cherchent à attirer l'attention en effectuant toutes sortes de gestes. La différence maintenant, c'est qu'ils ont les réseaux sociaux pour le faire, explique l'experte. Le cas de Brenda Pelletier-Bélanger n'est pas sans rappeler celui de Mélina Roberge, arrêtée en 2016 après avoir tenté de faire entrer 95 kg de cocaïne en Australie. Elle et sa partenaire avaient pris des photos tout au long d'une croisière autour de la planète pour les mettre en ligne sur le réseau Instagram. Une juge australienne avait critiqué l'obsession des jeunes pour les réseaux sociaux et l'importance du paraître au moment d'annoncer à Roberge qu'elle écopait de 8 ans de prison. Il est triste de voir que les jeunes cherchent à atteindre une existence vide de sens où le nombre de likes qu'ils reçoivent représente leur valeur, avait-elle déclaré. Daphné Dion vient, elle s'intéresse à l'éducation et plus particulièrement à l'enseignement de l'éducation sexuelle. De rares exemptions à l'éducation sexuelle. Le ministère de l'Éducation dévoilera sous peu des directives pour encadrer les demandes de parents qui veulent retirer leurs enfants du programme d'éducation à la sexualité. De rares exemptions pourront être accordées. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, hier. Des balises seront transmises aux écoles concernant la capacité pour certains de se retirer du cours qui sera pourtant obligatoire. Ce sera l'exception, pas la règle, a affirmé le ministre. Nous souhaitons un mécanisme le plus restrictif possible. Les enfants vulnérables, comme ceux qui sont victimes de violences sexuelles, pourront en être exemptés à la suite d'une rencontre entre les parents et la direction d'école, a expliqué le ministre, dans l'intérêt de l'enfant. Il ne sera donc pas question d'accepter qu'un enfant se retire de ce programme parce que ses parents jugent qu'il est trop jeune pour entendre parler de certaines notions en classe. Pour moi, ce n'est pas une bonne raison, a lancé M. Proulx. Les parents qui invoquent des motifs religieux ne devraient pas non plus recevoir d'exemption pour leurs enfants, a ajouté le ministre Proulx. Je ne crois pas, a-t-il lancé, tout en prenant soin de préciser que le ministère doit se conformer aux lois et aux chartes en vigueur. Il n'a toutefois pas été possible de savoir à quoi s'exposeront les parents s'ils retirent leurs enfants du programme d'éducation à la sexualité, malgré un refus d'exemption. Le journal a rapporté cette semaine que des dizaines de parents ont retiré leurs enfants de l'école lundi pour protester contre le retour de l'éducation à la sexualité dans toutes les écoles du Québec l'an prochain. Parmi eux, plusieurs refusent que leurs enfants soient exposés à ces contenus. De leur côté, les directions d'école réclament des règles claires afin de savoir comment gérer les demandes de parents à ce sujet. Le programme d'éducation sexuelle sera enseigné à tous les élèves de la maternelle à la 5e secondaire dès la rentrée à raison de 5 à 15 heures par année. Allez, c'est encore la saison des promesses préélectorales. Philippe Orfali nous en rapporte une du Parti québécois. Le PQ s'engage à agir contre les hausses de salaires faramineuses. Jugeant que les Québécois sont excédés par les énormes hausses de salaires que se paient les hauts dirigeants d'entreprises publiques et privées, le Parti québécois promet d'instaurer une culture de la modération s'il est élu. Un an après le scandale de la rémunération chez Bombardier et quelques mois après la hausse de salaire de 26 % dont a bénéficié le président et chef de la direction d'Hydro-Québec, le Parti québécois promet de serrer la vis là où il le peut. Reconnaissant qu'il ne peut empêcher les entreprises privées d'accorder des hausses de salaire faramineuses à leurs hauts dirigeants, le chef du PQ, Jean-François Lisée, a toutefois l'intention de prêcher par l'exemple avec les sociétés d'État. On est dans une spirale d'augmentation systématique des hauts salaires qui est déconnectée de la réalité, de leurs compétences, du marché. Est-ce que c'est facile à régler? Non. Mais on veut envoyer, une fois au gouvernement, un signal de modération qui est le contraire de ce que le gouvernement libéral au pouvoir a envoyé, a dit M. Lisée jeudi en marge d'un événement du Conseil des relations internationales de Montréal. On dénonce le fait que les dirigeants de Bombardier ont eu 49 % d'augmentation dans une année où il y a eu une réduction des profits. La Caisse de dépôt, elle, a eu de très bons profits, mais pas pour justifier une hausse de rémunération de cette proportion, a-t-il poursuivi. Ces promesses devraient permettre de créer une culture de la modération pour les hausses futures, croit le chef péquiste. Il n'a toutefois pas voulu s'engager à forcer les entreprises qui bénéficient du soutien de l'État, comme Bombardier, à limiter les hausses de salaire de leurs hauts dirigeants. toujours dans l'optique de diminuer les égalités, de diminuer les inégalités, oui, entre les plus riches et les plus pauvres, le Parti québécois s'engage à augmenter le salaire minimum à 15 $ d'ici 2022, une mesure déjà instaurée en Ontario depuis peu. Par ailleurs, au sein du SPVM, Antoine Lacroix nous apprend qu'une inspectrice-chef a été suspendue. Une inspectrice-chef de la police de Montréal a été suspendue de ses fonctions jeudi pour avoir transmis à un candidat les questions et réponses d'un test de promotion. Selon nos informations, Roxane Pitre fait face à cette sanction disciplinaire après qu'il a été déterminé à la suite d'une enquête des affaires internes qu'elle n'avait rien commis de criminel. Sa suspension est d'une durée indéterminée pour le moment, avec salaire. Ce n'est pas la première fois que Roxane Pitre est suspendue. Après le saccage de l'hôtel de ville en 2014 par des employés municipaux, elle s'était vue remettre une sévère suspension de 20 jours à cause de sa gestion de la situation. Légalement, il est impossible de parler du dossier personnel d'un employé. Je ne peux donc pas confirmer ou infirmer les informations, a indiqué au journal l'inspecteur Yann Lafrenière, porte-parole du SPVM. L'inspectrice-chef de la division Sud est considérée comme étant anciennement dans la garde rapprochée de l'ancien chef Philippe Pichet, selon nos sources. Lors de la crise qu'a traversée la police de Montréal en février 2017, Roxane Pitre avait démontré du soutien envers Pichet alors qu'elle était à la tête d'une association des hauts gradés du SPVM. Elle travaille pour le SPVM depuis 1993 et a notamment été commandante des postes de quartier 11, 13 et 21. Elle a commencé sa carrière comme patrouilleuse, puis elle a gravi les échelons. Your head is shaking, your mouth is frowning, your tongue's a wagging all over town, and your eyes are judging, your elbows nudging, all the poison that you spread with these nasty words you say. You got is your own. Well, did you do that all by yourself, girl? It's not that good, you might need my help, girl. Without your star hitch up to my wagon, girl, you're never gonna make it. No, your ass gonna be dragging. Stay out of my business. 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 Leave it alone. The only business you got, damn if I do and damn if I don't. You want me to play that game, but I won't. The only habit causing trouble is strife. Well, I'm too busy with my damn good without you in it. A woman stay home to raise the babies. Must be nice to do nothing, must be lazy. And so she go out to make the money. How can you leave your babies? You're a bad, bad mommy. Stay out of my business. Is your own.
C'était Tammy Nielsen et sa chanson « Stay out of my business ».
Actualité régionale. Et on commence immédiatement avec un texte d'Élisabeth Fleury dans Le Soleil. Un texte intriguant, en fait, qui nous fait nous poser encore des questions sur l'interminable sujet du réseau de la santé. Une super clinique à la recherche de patients. Le responsable d'une super clinique de Québec est à la recherche de patients. Il aimerait que les urgences des hôpitaux réfèrent davantage aux super cliniques les patients classés P4 ou P5, les deux catégories les moins prioritaires, ceux-là même qui attendent pendant des heures dans les salles d'urgence. Le médecin, qui a demandé que sa clinique et lui ne soient pas identifiés, dit avoir appelé dans toutes les urgences de Québec jeudi matin pour les informer que sa super clinique avait des disponibilités pour recevoir des patients. Ça n'a rien donné. J'ai un médecin qui va devoir quitter, faute de patients dans la salle d'attente du sans-rendez-vous, a confié notre interlocuteur qui déplore que les urgences ne réorientent pas leur clientèle moins prioritaire vers les super cliniques. Je ne comprends pas pourquoi elles ne le font pas, surtout quand on sait qu'il y a un pourcentage de patients qui quittent l'urgence après quelques heures d'attente sans avoir été vus par un médecin. Il y a des P4 et des P5 qui pourraient assurément être vus dans des cliniques et des super cliniques, mais il n'y a pas de lien qui se font, pas de protocole pour réorienter les patients, dénonce notre source, selon qui une véritable collaboration avec les super cliniques permettrait de diminuer la pression sur les urgences. La majorité du temps, on est plein, mais il y a des journées où on n'a plus de ressources et où on pourrait voir plus de patients, explique le médecin, qui réclame qu'une procédure formelle soit mise en place dans les urgences pour rediriger les patients présentant une condition médicale mineure, mais néanmoins urgente. C'est comme si ça ne rentrait pas dans leurs habitudes, peut-être par crainte médico-légale ou parce que ça demande du temps et des ressources pour le faire, que c'est compliqué, je ne sais pas, réfléchit notre interlocuteur. Au CHUC de Québec, on admet n'avoir aucun protocole pour rediriger les patients classés P4, P5. Ça fait partie des choses qui s'évaluent, mais ce n'est pas pour demain. Pour en arriver à un tel protocole, il faudrait mettre en place des critères très précis, souligne une porte-parole du CHU de Québec, Lindsay Jacques, ajoutant que l'établissement n'a pas de projet en ce sens pour l'instant. Au cabinet du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, on endosse l'idée de notre médecin. Non seulement nous sommes d'accord avec cette proposition, c'est même ce que l'on demande aux établissements, dit l'attachée du ministre, Catherine W. Audet. Il y a actuellement 6 super cliniques dans la capitale qui peuvent accueillir les patients avec ou sans médecin de famille. Et finalement, on le voit, il y a des trous dans leur horaire. Bon, allez, il faut en placer une de temps en temps. Alors, une mauvaise nouvelle qui est rapportée par la Tribune, plus particulièrement par Marie-Christine Bouchard. Alerte aux jujubes contaminés au cannabis. Des jujubes contaminés au cannabis et peut-être par d'autres types de drogues sont présentement en circulation dans le secteur d'asbestos. Un adolescent a été rendu si malade par sa consommation de tels bonbons que sa situation a été rapportée à la Direction de la santé publique de l'Estrie vendredi dernier. La santé publique a décidé de sonner l'alarme afin d'élever le niveau de vigilance des parents et intervenants du milieu scolaire afin d'éviter que d'autres jeunes s'intoxiquent avec ces produits. Ces bonbons en gélatine de type « gummy bear » pourraient prendre d'autres apparences. La Sûreté du Québec mène l'enquête dans le secteur d'asbestos et les autres corps policiers de la région ont été mis en état d'alerte. Jusqu'ici, il n'y a que dans la MRC des sources qu'on a trouvé ces bonbons contaminés. Santé Canada a procédé rapidement à l'analyse des jujubes qui ont été saisis par la Sûreté du Québec et les taux de THC, ça c'est le tétrahydrocannabinol, le principe actif du cannabis, sont si élevés que la consommation d'un ou deux bonbons pourrait provoquer une intoxication qui serait quand même significative, souligne la directrice de la santé publique en Estrie, la docteure Mélissa Généreux. Tous les bonbons saisis n'ont pas été contaminés, ce qui laisse la porte ouverte à la présence d'autres drogues de rue. La santé publique invite donc les parents à discuter de la situation avec leurs enfants. Les autorités ont aussi demandé aux intervenants scolaires et communautaires de porter une attention particulière à la présence de tels bonbons dans leur milieu. Si les parents ou les intervenants voient des jeunes se promener avec des gummy bears, on les invite à poser des questions à leurs jeunes pour savoir d'où viennent ces bonbons et les aviser qu'ils pourraient contenir des drogues de rue, dit-elle. On rappelle aux parents et intervenants de communiquer avec Info Santé s'ils sont en présence d'un jeune ayant consommé ces bonbons et qu'il présente des symptômes inhabituels, ajoute Dr. Généreux. La consommation de tels bonbons pourrait provoquer jusqu'à la psychose chez ceux qui en consommeraient. D'autres symptômes qui pourraient être observés sont la confusion, la désorientation, une grande anxiété notamment. On se rappellera peut-être que la SPCA avait protesté contre le Festival Country qui s'était tenu l'an dernier à Montréal à cause du traitement réservé aux animaux. Eh bien, la SPCA récidive, mais cette fois en s'attaquant directement à l'institution western la plus absolue du Québec, le Festival de Saint-Tite. C'est Paul Vermeau-Desroches qui en parle dans Le Nouvelliste. Saint-Tite, la SPCA s'en prend aux commanditaires. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, SPCA, de Montréal, prend les grands moyens pour arriver à ses fins en ce qui concerne la tenue de rodéo au Festival Western de Saint-Tite, en lien avec le récent rapport publié par le professeur Alain Roy sur les traitements réservés aux animaux de rodéo. La SPCA, qui n'a jamais caché souhaiter l'abolition pure et simple des activités de rodéo au Québec, interpelle maintenant les commanditaires du Festival Western de Saint-Tite afin de les inciter à ne plus commanditer l'événement, spécialement la partie du rodéo. Récemment, la SPCA avait écrit à chacun des commanditaires en privé, leur demandant de mettre fin au plan de commandite des rodéos. Les entreprises qui n'avaient pas donné suite à cette demande ont été, jeudi matin, inscrites dans une publication Facebook de l'organisme montréalais. On y présente un montage vidéo condensé des images prises lors de rodéos à Saint-Tite et qui ont inspiré la publication du rapport d'Alain Roy. Puis chacun des commanditaires y est nommé, indiquant que cette cruauté animale vous est présentée par, suivent le nom des commanditaires concernés. Maître Sophie Gaillard, avocate pour la SPCA de Montréal, indique que la réaction du ministre Laurent Lessard lors de la publication du rapport il y a 2 semaines laisse croire à l'organisme qu'il ne semblait pas y avoir une grande volonté politique d'agir en ce qui concerne le bien-être animal dans les rodéos, ce qui fait que la SPCA a choisi de s'attaquer à l'aspect économique. Questionnée à savoir si la SPCA faisait ainsi un appel au boycott des compagnies commanditaires des activités du rodéo du Festival Western, Maître Gaillard estime qu'il appartient aux citoyens de faire ce choix en prenant connaissance des images diffusées, mais que la SPCA espère une grande mobilisation du public pour ne plus encourager les activités de rodéo où des animaux sont dressés et utilisés pour le divertissement. Elle invite d'ailleurs les gens à se mobiliser sur le site nonaurodeo.com. En soirée jeudi, la publication Facebook de la SPCA Montréal avait été partagée par près de 600 personnes et avait généré des centaines de réactions et de commentaires. Au Festival Western, on déplore la sortie de la SPCA de Montréal que l'on n'hésite pas à qualifier de « vicieuse ». C'est une campagne vicieuse de la SPCA de Montréal que l'on considère alarmiste. Ça ne fait que braquer les gens et les camper sur leur position. Au lieu de favoriser un dialogue ouvert, comme nous tentons d'en établir un, constate le directeur général du Festival Western, Pascal Lafrenière. Rappelons que des travaux sont présentement en cours avec un comité consultatif formé des gens du MAPAC, de représentants du Festival Western, de même que de spécialistes nommés par le professeur Alain Roy afin de déterminer les balises de la loi sur le bien-être animal en regard des activités entourant les rodéos. Le comité doit d'ailleurs se réunir ce vendredi à Trois-Rivières pour poursuivre les travaux. Puisqu'on en est à parler d'économie et de cause, parlons d'investissement dans le pétrole et laissons pour ce faire Michel Laliberté nous raconter son texte paru dans les pages de La Voix de l'Est. Desjardins et les sables bitumineux, deux caisses de la région s'y opposent. Le mouvement appelant au retrait des caisses Desjardins des projets liés aux sables bitumineux en Alberta s'est propagé à la région. Les établissements de Grand Bay, Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi ont adopté mardi des résolutions appelant la Fédération Desjardins à ne plus financer de projets pétroliers. Lors des assemblées générales annuelles des deux caisses, les membres de la caisse de Brome-Missisquoi ont appuyé la résolution à près de 95 %, tandis que ceux de la caisse Green Bay-Haute-Yamaska l'ont approuvé à 61 %. Richard Leclerc est heureux d'avoir appuyé la résolution proposée par Gilles-Arthur Barrette lors de l'assemblée de la caisse de Brome-Missisquoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on en parle, mais comme beaucoup de gens, c'est un sujet qui me préoccupe. Et de savoir que Desjardins investit notre argent dans des projets comme ça, dans le pétrole le plus polluant de la planète, je ne suis pas d'accord. Il y a plusieurs autres choses dans lesquelles on peut investir. On peut le faire dans la recherche et le développement d'énergie propre. En date du 21 avril, les assemblées générales de 16 caisses avaient adopté une résolution similaire, rapportait Le Devoir. Les résolutions exhortaient Desjardins de retirer le financement de 145 millions de dollars accordé à Kinder Morgan en lien avec la construction de l'oléoduc Trans Mountain. Cet oléoduc, qui est au cœur d'une guerre politique opposant la Colombie-Britannique au tandem formé par l'Alberta et le gouvernement canadien, vise à permettre le transport de pétrole provenant des sables bitumineux à travers la Colombie-Britannique jusqu'à ses côtes. De là, le pétrole serait exporté par bateau-citerne. Les résolutions adoptées demandent aussi que la Fédération Desjardins cesse de financer tout projet d'oléoduc relié aux sables bitumineux. La direction de Desjardins devra prendre acte du choix de ses membres, soutient M. Leclerc. On sent que quelque chose se passe, que les gens veulent que ça change. Ils sont de plus en plus sensibilisés aux impacts des sables bitumineux sur l'environnement. On fait partie du mouvement Desjardins, on a le droit de dire qu'on est contre ce pétrole et il va falloir continuer de le dire, a-t-il indiqué. À Chicoutimi, grosse prise de contrôle puisque Cégertech a été vendu à Stantec. Annie-Claude Brisson du Quotidien en parle. La firme mondiale de conception Stantech, dont le siège social est situé à Edmonton, met la main sur le fleuron régional Cégertech. Une lettre d'intention a été signée alors que la clôture de la transaction est prévue le 25 mai 2018. Le président fondateur de l'entreprise, Jeannot Harvey, qui travaille à ce dossier depuis plusieurs mois, assure qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le bâtisseur du groupe Cégère, créé en 1977, est convaincu qu'il s'agit d'un gain pour la firme de génie conseil, qui compte plus de 250 employés, dont la majorité au bureau de Chicoutimi et pour l'ensemble de la région. Les dernières années ont été difficiles pour les entreprises d'ici en raison de l'absence de grands chantiers. Encore une pause et cette fois on revient avec l'actualité culturelle.
Du coin, ça fait bien mieux l'affaire quand on est pressé. On n'a rien qu'à traverser à la brousse du coin. On n'a jamais de misère quand on est cassé. Sous la peau nous avancer. Il y a des grosseries qui vendent meilleur marché qu'ailleurs, mais il faut toujours d'argent pour le payer sans comptant. Dans le courant de l'hiver, si notre mari est à rien faire, soyez assurés qu'il ne voudra pas nous avancer. Ceux qui coupent les prix ne veulent pas vendre à crédit, faut regarder l'apaiser. Il y a des fois qu'on se fait jouer pour tâcher de nous distraire. Ils nous comptent une petite histoire quand ils voient qu'on les regarde pas. C'est dans ça là qu'on se fait jouer ça. Quand on qu'on cherche bon marché. C'est là qu'on fait embêter sur les tomates et les petits pois. Ça donne le brûlement d'estomac, sur le bledin, le spaghetti. On vient que tout englouti, on aime payer puis cher. Bien oui, quelque chose qu'on digère. Mes amis, je vous en prie, si vous achetez à crédit, si on vous demande l'argent, montrez-vous pas indifférent. On paye un peu plus cher, mais ça fait même mieux l'affaire. Quand on jette le beau marché, on risque de s'empoisonner.
C'était Mary Travers, mieux connue sous le nom de La Bolduc, qui chantait La Grosserie du coin. Et c'est pas anodin qu'on vous le fasse jouer, puisque le premier texte que je vous lis dans ce volet culturel de l'émission, c'est La Bolduc, 2 millions de dollars au box-office. Je pense que même Mme Travers aurait jamais pu espérer ça. Le film La Bolduc, avec Debbie Lynch White dans le rôle-titre, a atteint les 2 millions de dollars de revenus au box-office le 26 avril, et ça en quelques 20 jours depuis sa sortie en salle. Le scénario de Frédéric Ouellet en collaboration avec Benjamin Ali, mis en image par François Bouvier, qui ont aussi Paul à Québec, présente une version romancée et inspirante de l'auteur-compositrice-interprète Mary Travers Bolduc. Le long métrage, qui se déroule dans les années 1920 et 1930, aborde également les débuts de la lutte pour le droit des femmes. Ayant pris l'affiche le 6 avril dernier et doté d'un budget de production de 5,7 millions de dollars, La Bolduc avait été le film québécois ayant engrangé le plus de recettes lors de son premier week-end en salle pour l'année en cours, avec des revenus de 550 000 $ en deux jours. Le 16 avril dernier, La Bolduc franchissait la barre du million avec des ventes de billets totalisant 1,3 million de $ de recettes. Le film d'époque, toujours à l'affiche, compte également Émile Proulx-Cloutier, Rosemary Perrault, Laurence Deschênes, Bianca Gervais et Mylène McKay dans sa distribution. Il y a des pièces de théâtre pour lesquelles on vous demande si vous les avez vues, d'autres pour lesquelles on vous demande « vous les avez pas vues ». C'est le cas pour tous ceux dans ma génération qui n'ont pas vu Brou. Voilà, eh bien Brou, sachez-le, est sorti de scène, mais est entré au musée. Sandra Godin nous en parle dans le Journal de Montréal. Après 3322 représentations, Brou entre au musée de la civilisation. Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier ont franchi jeudi la dernière étape du deuil de Brou. Après 38 ans et 3322 représentations, ils ont laissé avec beaucoup d'émotion les costumes, les accessoires et le décor de la pièce au bon soin du Musée de la Civilisation. Les trois comédiens ont dû ironiquement enfiler des gants blancs jeudi au Centre national de conservation et d'études des collections pour toucher à ces artefacts qu'ils ont maintes fois manipulés, désormais soumis à de strictes conditions de conservation. La donation sera l'objet d'une exposition au Musée de la Civilisation en juin 2019. On vient de mettre un dernier clou au cercueil, mais c'est un deuil heureux, a confié avec nostalgie Michel Côté. Les comédiens ont donné au musée tout ce qui a pu servir au spectacle, les équipements de tournée, les bouteilles de bière avec l'étiquette Brou, les tables, les chaises, la grosse horloge, l'effigie de Brou, les costumes des 18 personnages ainsi que de nombreuses affiches. L'idée de la donation est venue de l'ancien directeur des collections du musée, Richard Dubé, qui a fait les contacts entre le musée et les comédiens après avoir vu la dernière de la pièce le 22 avril 2017. Pour nous, ça a toujours été une évidence que ces objets-là entrent dans la collection nationale. On ne s'est pas posé la question pendant 3 mois, a affirmé le directeur général du musée, Stéphane Laroche. C'est une véritable pièce d'anthologie du théâtre populaire québécois du 20e siècle, a-t-il ajouté. Son texte dévoile un pan de l'histoire de notre société, celle de l'époque révolue des tavernes réservées aux hommes. C'est inespéré ce qui se passe aujourd'hui, a soutenu Marc Messier. On se demandait bien ce qui allait arriver à tout ça. J'ai été très touché quand j'ai vu la veste de Bonin dans un tiroir, a dit Michel Côté. Honnêtement, ça m'aurait arraché le cœur d'être obligé d'envoyer le décor à la récupération et qu'on se débarrasse de tout ça. C'est tout un pan de notre vie. Dans le devoir critique extrêmement favorable au nouvel album de Petula Clark qui chante des titres québécois, La belle aventure de Petula Clark. La riche idée. Un album de Petula Clark entièrement fait au Québec avec des chansons d'auteurs et compositeurs québécois réalisées par Antoine Graton et Louis-Jean Cormier. Ça sentait bon dès l'annonce du projet l'an dernier. De la même façon qu'un menu à du fumet pour peu que l'on sache humer, l'agencement des ingrédients chatouillait d'emblée les narines et risait les papilles. Il a du nez l'idéateur et directeur artistique Lionel Laveau et tous les participants ont voulu que ce qui sentait si bon sur papier régale sur disque. Les productions Martin Leclerc autant que les paroliers, les musiciens autant que les mélodistes. En ce mercredi, dans le salon d'un grand hôtel montréalais, tout le monde rayonne, irradie. Vu d'ici, l'album ainsi cuisiné se révèle 20 fois plus relevé qu'on le pressentait. C'est le fan à vie de Petula qui l'écrit. Vu d'ici est l'un des grands disques du vaste catalogue de la chanteuse, toute époque confondue. Digne de la période Tony Hatch, le maître d'œuvre des grands succès internationaux de Downtown à Don't Sleep in the Subway. Digne des joyaux de la carrière en France, signé Gainsbourg, Delanoé, rien de moins. Quand je rejoins Petula Clark, Louis-Jean Cormier et Antoine Graton à leur table, ils me gratifient de très larges sourires. Ils savent que ça a cliqué, que le résultat a dépassé leurs propres attentes qui n'étaient pas petites. Et ils voient dans ma face réjouie que je suis ravi, ravi, ravi. Petula pétille d'une joie gamine. C'est une aventure incroyable quand j'y pense. J'ai dit oui sans trop réfléchir, je me suis dit que je pouvais au moins essayer. Je ne les connaissais pas du tout, ces beaux messieurs. On s'est rencontrés en studio. Antoine était au piano, Louis-Jean à la guitare. How is this gonna work? Are we gonna get on together? J'ai su vite. On s'est aimé tout de suite. Nous savions, nous au Québec, avec qui elle s'embarquait. Antoine Graton est un arrangeur de génie, un claviériste capable d'aller partout. Louis-Jean Cormier est comme le micro de l'émission Microphone. C'est autour de lui que la musique se passe, un vrai rassembleur. D'abord, raconte Louis-Jean, on a passé quelques jours en studio, rien que nous trois, pour se connaître, pour essayer les chansons, parler de notre vision de l'album. Il y avait eu au préalable une sorte d'appel d'offres, précise Antoine. Dans le lot de chansons proposées, il y a énormément de ballades. Les gens avaient cette notion un peu préconçue que ça allait être un album de ballades. Nous autres, on voulait que ça bouge pas mal plus. Louis-Jean renchérit. On voulait que ça sonne, que par moments ça groove comme du Motown. Antoine, on a dénudé les démos et on a tout reconstruit. Louis-Jean, la distance entre les démos et les versions finales est très, très grande. Écoute la chanson « L'âge que j'ai ». Personne n'aurait pu se douter de ce que ça allait donner. Petula en est encore étonné. C'est fort ce qu'ils ont fait. Ce sont vraiment des bâtisseurs d'ambiance, ces gars-là. Venant de celle qui a travaillé avec les Tony Hatch, Quincy Jones, Michel Colombier, Herb Alpert et tant d'autres grosses pointures de la musique populaire, ce n'est pas du compliment gratuit. Les trois étaient pareillement exigeants et libres de mouvement. Rigueur et sens de l'aventure à la même enseigne. Avec eux, j'avais le goût du risque et j'avais confiance, résume-t-elle. À l'écoute, on comprend que rien n'a été interdit. S'inspirer du big sound des orchestres des années 60 était permis. Affirmer une identité québécoise dans les modulations, une spécialité de Louis-Jean, l'était tout autant. La signature des France d'amour, Alexandre Poulain, Nelson Mainville et compagnie ne se perd pas dans le processus. Partout sur la terre est encore une forte chanson de Luc de la Rochelière et la manière Louis-Jean s'entend à travers le chemin de la gare. Et le lâcher lousse d'Antoine, l'arrangeur s'entend partout, des cordes un peu Eleanor Rigby. Au début, d'avec tes yeux, avec tes mains, au tambour énorme dans « Ceux qu'on aime » et « L'âge que j'ai ». Ils n'ont pas fait du Petula Clark à numéro, mais n'ont pas enfoui non plus ce qu'il y a forcément de Downtown ou de Sign of the Times en eux. Ce sont aussi des fans. Quand on chantait les chœurs tous les trois autour d'un micro, on ne pensait pas à ça, nuance Antoine. On tripait dans l'instant présent. On ne se comparait pas à personne et Pétula faisait partie du triangle. Louis-Jean avoue, le seul moment où je me suis fait la réflexion que c'était la Pétula Clark, méga vedette internationale avec qui on était, c'était au lunch quand elle s'est mise à faire la vaisselle. Rigolade autour de la table. « Que fais-tu là, Pétula? »« Somebody had to do the dishes », s'exclama-t-elle. Antoine, on avait l'air fin. C'était encore la femme qui prenait ça en charge, même si elle s'appelle Pétula Clark. Si vous voulez voir quelque chose de différent en théâtre, Mario Cloutier vous recommande, et c'est d'ailleurs le titre de son texte, Alpha et Oméga, quand le spectateur met en scène. Le nouveau théâtre expérimental des compères Daniel Brière et Alexis Martin ne recule devant rien pour faire éclater les conventions théâtrales. Pour Alpha et Oméga, ils se sont alliés à Christian Vanasse et à Pierre-Mathieu Fortin pour partager avec le spectateur le droit de vie et de mort, comparaison royalement boiteuse, sur la pièce et les comédiens. Le projet a été initié avec mon ami Philippe Lamarre d'Urbania, raconte le metteur en scène Daniel Brière. On a trouvé ce prétexte pour travailler ensemble. Avec Christian Vanasse, c'est la même chose. On voulait l'inviter comme auteur après l'avoir vu comme comédien. On aime collaborer avec des gens en dehors du milieu théâtral. Au début des discussions entre Urbania et le nouveau théâtre expérimental, rappelle le producteur numérique Pierre-Mathieu Fortin, on se demandait ce qu'il adviendrait si le public décidait tout le temps de ce qu'il veut. Ce serait inconfortable et c'est justement ce que voulaient Daniel Brière et Alexis Martin. Ils ont dit « Allons-y ». Impliquer le public dans la création et la représentation sont des risques très intéressants, confie l'auteur Christian Vanasse. Le théâtre n'est pas démocratique par définition. Un auteur et un metteur en scène décident de faire quelque chose, le spectateur reçoit. Mais qu'est-ce qui se passe quand le spectateur intervient? Est-ce que le théâtre devient démocratique? Est-ce que l'art en général est démocratique? Répond Daniel Brière. Tout le monde est à l'écoute des réseaux sociaux comme si c'était partie prenante des créations maintenant. Le théâtre, c'est un art d'équipe avec un auteur, un metteur en scène, un acteur et un public. Une rencontre et un échange aussi. La pièce permettra au spectateur de mieux comprendre le processus créatif d'une pièce de théâtre selon lui. Lors de la web-série qui a mené à la pièce, dit-il, les spectateurs ont demandé un éclairage au néon. Éclairer une pièce de théâtre avec du néon, c'est périlleux. Mais il n'y a aucun spot traditionnel de théâtre, on n'a jamais fait ça. Ils ont aussi choisi une musique western romantique. Les acteurs étaient également soumis au ballottage. Après élimination, ils seront 5. Peter Batakliev, Christophe Payard, Dominique Pétain, Jeanne Mariouka, Robitaille et Victor Trelles-Turgeon. La web-série suivait un calendrier de production classique, note Christian Vanasse. Donc, il y a un exercice pédagogique dans ce qui en résulte sur scène.
Le monde s'écroule.
Bardot et la chanson « Enfin ».
Avant de passer à la lecture d'un prochain texte, permettez que je fasse écho à un texte de Yann Bussière dans Le Soleil qui nous rapporte la très étrange mésaventure qui est arrivée au Nord Côtier, c'est le journal de cette île. Sachez qu'à cette île, le 23 avril, un double meurtre a été commis, ce qui a évidemment attiré l'attention du journal local qui a fait sa une avec, qui avait tout préparé pour le couvrir dès le lendemain. Or, le 24, coup de théâtre, un juge prononce une ordonnance de non-publication interdisant de divulguer le nom des victimes. Du coup, le journal qui est déjà imprimé, on se demande ce qu'on fait avec, eh bien, on embauche des gens qui retirent 4 pages du journal à la main sur chacune des copies du journal en question. Voilà, l'enfer pour un éditeur, j'ose même pas imaginer le problème que ça peut être. On va aller voir, tiens, Donald Trump, qu'on n'avait pas regardé ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une émission sans Donald, me direz-vous? Gouvernement Trump, Jackson retire sa candidature, Pruitt s'explique sur son train de vie, c'est Cyril Julien de l'AFP qui en parle. Mauvaise journée pour les hommes de Donald Trump. Ronnie Jackson, le médecin militaire de la Maison-Blanche, a retiré jeudi sa candidature au ministère des Anciens Combattants après des révélations embarrassantes, tandis que le ministre de l'Environnement, Scott Pruitt, a dû s'expliquer au Congrès sur un scandale de dépenses excessives et illégales. Même si je serai toujours reconnaissant envers le président Trump pour la confiance placée en moi en me donnant cette chance, je retire avec regret ma nomination au poste de ministre des Anciens Combattants, a déclaré dans un communiqué l'amiral Jackson, ébranlé par des soupçons sur son comportement au travail et en dehors, révélé par un rapport de l'opposition démocrate. Le Sénat avait reporté mardi une audience pour sa confirmation qui devait intervenir un mois après sa nomination faite sur Twitter par le président américain. La Maison-Blanche a plusieurs fois été épinglée pour avoir fait des annonces ministérielles sans vérifier les antécédents des candidats, notamment concernant des conflits d'intérêts ou des questions d'éthique. Des personnes sélectionnées pour le ministère du Travail ou le secrétariat à l'armée et à la marine ont ainsi déjà jeté l'éponge avant leur audition au Sénat. Quant au chef de l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, Scott Pruitt, il a notamment dû justifier devant une commission parlementaire les 43 000 $ dépensés sans l'accord du Congrès, un acte illégal, pour installer une cabine téléphonique insonorisée dans son bureau. M. Pruitt, un défenseur des industries fossiles, a invoqué des impératifs de sécurité et a rendu son équipe responsable des irrégularités. Son explication n'a pas convaincu certains parlementaires. « Vous avez mis en cause de manière répétée votre chef de cabinet, votre conseiller juridique, des responsables de l'agence. Nous avons des inquiétudes réelles sur ce qu'il se passe », a jugé le démocrate Ben Lujan. Ronnie Jackson, pour sa part, était accusé de surprescription de médicaments au sein de l'armée ainsi qu'à la Maison-Blanche, on le surnommait même Candyman, mais également d'avoir instauré un environnement professionnel hostile et d'avoir été aux prises avec une consommation excessive d'alcool. Il aurait notamment été victime d'un accident de la route au volant d'un véhicule du gouvernement après une soirée arrosée. On reste aux États-Unis pour une nouvelle inquiétante. L'agence France-Presse nous dit que, c'est le titre, l'augmentation de l'autisme aux États-Unis, un problème de santé publique urgent. Le taux d'autisme aux États-Unis a grimpé pour atteindre un enfant sur 59 contre un enfant sur 68, selon de précédentes estimations, devenant un problème urgent de santé publique, indique un rapport gouvernemental publié jeudi. Ces troubles neurodéveloppementaux touchent 1,7% des enfants américains contre 1,5% estimé précédemment selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Les derniers chiffres sont surprenants, a dit Walter Zauroni, professeur associé de pédiatrie à l'école de médecine de Rutgers dans le New Jersey qui a mené l'étude dans cette région. La prévalence de l'autisme aux États-Unis était seulement de 1 sur 5 000 en 1975 et n'a cessé de monter ces dernières années, augmentant de 150% depuis l'an 2000, ont ajouté les centres de contrôle et de prévention des maladies. Les chercheurs ne savent pas encore ce qui cause l'autisme ou pourquoi il semble augmenter. En 2014, les centres avaient indiqué qu'un enfant américain sur 68 était autiste. Ces changements dans la prévalence pourraient être dus à une meilleure identification de l'autisme chez les populations minoritaires, selon les centres, qui notent malgré tout que l'autisme reste plus susceptible d'être repéré chez les enfants blancs que chez les enfants noirs ou hispaniques. L'autisme est environ 4 fois plus courant chez les garçons que chez les filles. Certains facteurs semblent augmenter les risques, comme être né de parents âgés de plus de 30 ans, une maladie de la mère pendant la grossesse, des mutations génétiques ou une naissance avant 37 semaines de gestation. Il s'agit là de vraies influences, mais elles ne suffisent pas à expliquer le taux élevé de prévalence de l'autisme, selon M. Zahoroni. Il y a encore des risques non définis liés à l'environnement qui participent à cette augmentation significative, des facteurs qui pourraient affecter un enfant pendant son développement in utero ou liés à des complications à la naissance ou à la période pendant laquelle il est nouveau-né. Nous avons besoin de davantage de recherches sur les déclencheurs non génétiques de l'autisme, a-t-il ajouté. Et si vous vous posez la question, le taux n'est pas égal à la grandeur des États-Unis. Il est le plus élevé dans le New Jersey avec 2,9% des enfants qui naissent avec de l'autisme, alors que le plus bas est en Arkansas avec un enfant sur 76. Allez, on pense à une autre échelle, autant en termes de temps que d'espace. Des astronomes découvrent un carambolage entre 14 galaxies, c'est la presse canadienne qui en parle. Des astronomes ont découvert les premiers instants d'un gigantesque carambolage cosmique dans un coin reculé et jusqu'à présent inconnu de l'univers. Cela pourrait marquer la naissance d'une des structures les plus titanesques du cosmos. L'équipe d'astronomes canadiens et internationaux a réalisé cette découverte stupéfiante à l'aide d'un puissant télescope chilien. Leurs images montrent la collision imminente de 14 jeunes galaxies gorgées d'étoiles qui formeront un gigantesque amas de galaxies. La recherche publiée dans les pages du prestigieux journal scientifique Nature explique que ce proto-amas se trouve à 12,4 milliards d'années-lumière de nous. Imaginez le chiffre, 12,4 milliards d'années. Ça veut dire qu'un rayon de lumière qui nous vient de cette galaxie-là a pris 12,4 milliards d'années pour se rendre. Ce qui signifie que sa lumière est partie donc en direction de la Terre quand l'univers était âgé de seulement 1,4 milliard d'années. Un astrophysicien de l'Université Dalhousie à Halifax, Scott Chapman, a expliqué par voie de communiqué que le fait d'avoir capturé les affres de la formation d'un énorme amas de galaxies est spectaculaire en soi. Il prévient ensuite que le fait que cet événement se soit produit si tôt dans l'histoire de l'univers présente un problème formidable en ce qui concerne notre compréhension actuelle de la manière dont les structures se forment dans l'univers. Jusqu'à présent, a dit M. Chapman, les astrophysiciens supposaient que des proto-amas, aussi gigantesques que celui-ci, auraient mis beaucoup plus de temps à se former. Cette formation, renverse toutefois cette théorie, puisque le tout s'est déroulé très rapidement, dans un espace qui ne fait qu'environ 3 fois la taille de la Voie lactée. Les amas de galaxies seraient les plus gros objets de l'univers connu et leur masse serait comparable à 1000 milliards de soleils selon l'étude. Ils sont liés par la gravité et peuvent renfermer un millier de galaxies, de la matière noire, des trous noirs en pleine expansion et du gaz dont la température peut surpasser le million de degrés. Et voilà qui conclut cette édition du 27 avril 2018 du quotidien des quotidiens. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la toute dernière édition du mois d'avril, puisque mardi, nous serons déjà en mai. Je remercie Mathieu Tessier aux choix musicaux et à la mise en onde. Et je vous invite à rester à l'écoute alors que Kevin Breton vous parlera de sport. Merci.